Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 15 avril, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. 7 jours d'actualité en une émission, c'est maintenant, grâce au reportage de la rédaction de RFI bien sûr. Nous partirons pour les États-Unis et le Japon par exemple, et pour l'Afrique bien sûr, après le flash. Notre invité, Dorian Malovic, journaliste au quotidien La Croix, spécialiste de l'Asie. Il vient d'écrire avec Juliette Morillo, La Corée du Nord en 100 questions, un livre publié chez Talendier. Bonjour Dorian Malovic.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. Vous, le spécialiste de l'Asie, je le disais à l'instant, depuis quelques décennies maintenant.
Quelques, temps passe vite. Oui, plusieurs décennies, oui, j'ai commencé très tôt.
Vous avez commencé très tôt et c'est un continent en tout cas que vous aimez, que vous suivez, donc vous avez le recul pour nous expliquer un certain nombre de choses. Vous êtes auteur par exemple de China Love, Comment s'aiment les Chinois, chez le même éditeur, Talendier, oui, un livre publié l'année dernière. La Chine sur le divan.
Psychanalyste chinois, le premier psychanalyste chinois qui a été formé en France. C'est vraiment passionnant et on a fait un livre d'entretien où nous a mis la Chine sur le divan.
Et c'est intéressant parce que ça montre que vous vous intéressez pas seulement à la politique mais aux sociétés asiatiques, chinoises en l'occurrence. Alors, dites-moi Dorian, le contexte est tendu pour cette émission aujourd'hui. On en parle ce matin, ça fait la une des journaux sur RFI et ailleurs. La Corée du Nord commémore les 105 ans, c'est ça, de son fondateur Kim Il-sung.
De la naissance de Kim Il-sung, c'est le père de la nation. Enfin, je veux dire, c'est la figure paternelle, c'est la fête annuelle nationale de respect et de dévotion à l'égard de celui qui a créé la République démocratique et populaire de Corée, qui est le nom complet de ce qu'on appelle la Corée du Nord. Et il se trouve que les conjonctions d'actualité, enfin, je veux dire de géostratégie, font que c'est à ce moment-là, vous avez Trump qui est au pouvoir depuis le 20 janvier dernier, vous avez évidemment en Corée du Sud une instabilité politique, vous avez un grand leader en Chine, et vous avez effectivement les premiers tests entre la Corée du Nord et les États-Unis, pour qui le dossier nord-coréen nucléaire est toujours sur la table depuis des années et des années. C'est 10 ans que le premier test nucléaire a été effectué.
C'est ce que vous rappelez effectivement dans le livre, parce qu'il y a eu plusieurs vagues de crise à propos
exactement.
Du nucléaire.
Ouais. Ça remonte même à plus de 20 ans. La grande tension en 94 sous l'administration Bill Clinton, on a échappé. Enfin, Clinton était prêt à lancer une bombe atomique, c'était en discussion
déjà.
À l'époque, c'était déjà dans la balance. La Chine n'était pas encore aussi puissante et la seconde puissance mondiale à l'époque. Aujourd'hui, tout a changé.
Et vous nous rappelez aussi Dorian Malovic dans ce livre avec Juliette Morillo, un livre qui est passionnant et très très complet sur la Corée du Nord, je le précise. Premier essai nucléaire de la
2006.
Nord, oui, de la Corée
2006,
du Nord 2006.
2009, 2013, 2016.
Il y a donc 11 ans, 5. Ça fait 11 ans que ça dure en fait.
11 ans que ça dure et il y en a 5 et on fait pas des tests pour s'amuser. On fait des tests pour progresser, pour avancer dans le programme nucléaire qui a été lancé depuis les années 60 progressivement en Corée du Nord face à des éléments nucléaires qui étaient basés en Corée du Sud aussi à l'époque. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier ces chapitres de l'histoire antérieure où effectivement vous aviez une Corée du Sud sous dictature militaire, sous protection américaine évidemment, et qui se défendait du monde communiste dans son ensemble.
Après la guerre de 1950-1953.
Voilà, aussi, hein. C'est la guerre, fin de la guerre 53.
La guerre de Corée, une des plus sanglantes guerres, d'ailleurs un peu oubliée.
Exactement, pour nous en Europe, évidemment, tout ce qui dépasse les frontières de l'Europe, ça nous échappe un peu, mais là-bas, ça n'échappe à personne. Et bien alors, vraiment, s'il y a un contexte qu'il faut vraiment souligner, c'est que la Deuxième Guerre mondiale, guerre du Pacifique, guerre de Corée, ces deux guerres ne sont pas terminées dans cette région d'Asie. Il est clair que entre les deux Corées, il n'y a pas de traité de paix. D'accord?
Oui.
Donc on est sur un armistice. Quand même, rappelons que le Japon et la Russie sont toujours techniquement en guerre et qu'il n'y a toujours pas de traité de paix entre les deux pays à cause du conflit des îles Kouriles qui pose un problème. Vous avez des rivalités Japon-Chine dues à la colonisation japonaise à l'époque en Chine et les massacres qui ont eu lieu à Nankin, à Harbin, l'unité 731, les tests médicaux. Donc ça sont des contentieux qui persistent et Corée du Sud, Japon, en dépit du fait de leur alliance réelle aujourd'hui contre la Corée du Nord, il y a des contentieux historiques intérieurs.
Alors restons en Corée du Sud d'Orient. Oui. D'abord pour revenir sur l'envoi par les États-Unis d'un porte-avions au large du pays. Oui. Il s'agit évidemment d'exercer une pression sur la Corée du Nord, oui, voire plus. Oui. À Séoul dimanche, quelqu'un que vous connaissez bien, Frédéric Ojardias.
Ce ne sera pas la première fois que le Carl Vinson manœuvrera au large de la péninsule coréenne. Le porte-avions américain était déjà là le mois dernier pour des exercices militaires massifs. Mais ce nouveau déploiement, qualifié de mesure de précaution, s'accompagne cette fois d'une déclaration qui indique clairement la volonté de Washington d'intimider Pyongyang. La menace numéro 1 dans la région reste la Corée du Nord. C'est ainsi justifié l'armée américaine auprès de l'agence France Presse. Le président américain Donald Trump a récemment déclaré qu'il réglerait tout seul le problème nord-coréen si la Chine en était incapable. Ces frappes vendredi sur la Syrie peuvent aussi être vues comme un avertissement adressé à Pyongyang. L'administration Trump ne cesse de répéter que face à la Corée du Nord, toutes les options sont sur la table, ce qui inclut donc des frappes préventives. Cette perspective est effrayante pour la Corée du Sud. Sa capitale, Séoul, serait dévastée en cas de représailles de l'artillerie nord-coréenne. Kim Jong-un est déjà accablé de sanctions et ses menaces américaines renouvelées risquent surtout de renforcer sa détermination à s'équiper au plus vite d'une force de dissuasion crédible.
Première chose, Corée du Nord accablée de sanctions, c'est surtout la population qui en fait les frais d'ailleurs.
Ah ben, depuis, alors, il faut être clair, c'est encore étonnant. 2006, c'est le premier essai et c'est là où ont commencé les résolutions votées par l'ONU sur les sanctions. Il est à noter que les sanctions visaient essentiellement le matériel militaire à l'époque, hein, 2006, donc on va réduire, on va essayer de sanctionner tous les échanges économiques sur le plan militaire. Bon, on essaie de contrôler. Tout ça n'a pas été très appliqué par beaucoup de pays, et même par le Japon ou la Corée du Sud, ou même les États-Unis ont aidé alimentairement la Corée du Nord. 2009, 2013, les négociations de ces résolutions à l'ONU prennent de plus en plus de temps. Parce que au départ, en 3 jours, on avait une résolution en 2006. Maintenant, la dernière en 2016, on a attendu 3 mois avant que États-Unis, Chine, surtout, se mettent d'accord sur les terminologies, les termes, ouais, etc.
On sait que la virgule près,
le guillemet, etc. Mais ouais, très très sincèrement, ces sanctions n'ont pas eu les effets escomptés. C'est-à-dire que la population qui vit de façon, je dirais, spartiate depuis de nombreuses années, parce que le pays, effectivement, investit beaucoup dans le militaire, a subi, effectivement, des conséquences de ces sanctions qui n'ont toujours pas été très, très bien appliquées. Tout simplement aussi, le panel of experts, les experts de l'ONU, sont très peu nombreux. Ils ne peuvent pas aller contrôler tous les échanges de bateaux dans le monde entier sur ce qui sort de Corée du Nord, sur ce qui y arrive. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est qu'entre 2006 et aujourd'hui, la Corée du Nord a quand même réussi à faire progresser son programme nucléaire et de missiles malgré tout ça.
Sept jours dans le monde.
Et reparlons de la Syrie maintenant, Dorian Malovic, pour parler ensuite de la Corée du Nord et de la politique étrangère de Donald Trump. Reparler aussi du bombardement d'une base de l'armée syrienne par les Américains après une attaque chimique présumée, on en a parlé samedi dernier, à Washington, mercredi, Anne-Marie Capomaccio.
Le raid américain en Syrie était une punition. 59 missiles Tomahawk tirés sur la base d'où, d'après le Pentagone, l'attaque à l'arme chimique contre des civils a été lancée par le gouvernement Assad. Le ministère américain de la Défense affirmait hier, je cite le général Mattis, avoir détruit ou endommagé d'importants stocks de munitions et de carburant et 20% des capacités aériennes de la flotte syrienne. Punition, avertissement américain au régime de Bachar el-Assad et menace renouvelé hier aussi par Sean Spicer, porte-parole de la Maison Blanche.
Si vous gazez un bébé ou lancez un baril d'explosifs sur des innocents, vous aurez une réaction de ce président. C'est inacceptable. Vous savez désormais à quoi vous attendre.
La Maison Blanche et le Pentagone sont à l'unisson. Tout dérapage syrien sera à l'avenir sanctionné militairement. Et Sean Spicer va désormais plus loin. Le porte-parole de Donald Trump ne voit pas comment imaginer une Syrie en paix et une solution politique si Bachar el-Assad reste en place. Le secrétaire d'État Rex Tillerson va devoir faire entendre ce point de vue à son homologue russe Lavrov qu'il rencontre aujourd'hui à Moscou.
Alors une rencontre qui s'est déroulée dans un climat glacial, semble-t-il. Écoutez, Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain de l'administration Trump, après sa rencontre à Moscou et après aussi un entretien surprise avec Vladimir Poutine.
Le point de vue des États-Unis, appuyé par les faits recueillis, est formel. L'attaque à l'arme chimique qui a eu lieu en Syrie a été planifiée, organisée et exécutée par les forces du régime syrien. Nous en sommes sûrs. Ce n'est que la dernière d'une série d'attaques à l'arme chimique perpétrées par le régime Assad, sans parler des dizaines d'attaques au chlore ou avec des bombes à fragmentation dont l'intention est de tuer ou de blesser de la manière la plus cruelle. Clairement, notre point de vue est que le règne de la famille Assad arrive à son terme. Ils en sont responsables par leur comportement. La Russie, en tant qu'alliée la plus proche de la Syrie dans ce conflit, a peut-être les moyens d'aider Assad à admettre cette réalité.
Dorian, la Russie qui a une nouvelle fois mis son veto à l'adoption d'une résolution sur la Syrie à l'ONU, un texte qui prévoyait la mise en place d'une commission d'enquête sur l'utilisation de l'arme chimique la semaine dernière donc en Syrie, à New York, mercredi, Marie Bourreau.
Les Américains avaient voulu croire que les frappes il y a moins d'une semaine en Syrie avaient fait basculer les rapports de force en leur faveur. Mais avec ce huitième veto, Moscou montre son hermétisme aux menaces de Washington. Le représentant de Moscou à l'ONU a une nouvelle fois violemment dénoncé les efforts de changement de régime des Occidentaux, qui selon lui accusent le régime syrien d'avoir mené l'attaque au gaz sarin le 4 avril dernier sans aucune preuve. Comment savez-vous? S'est-il emporté? Personne n'est allé sur les lieux du crime. C'était d'ailleurs tout l'objet de cette résolution qui devait permettre une enquête approfondie en obligeant la Syrie à collaborer pour établir les responsabilités. Mais si Moscou a indiqué être favorable à une telle enquête, pas question pour autant d'exposer Bachar al-Assad à de possibles poursuites. Pour l'ONU, ce veto marque une nouvelle fois l'isolement de Moscou sur la scène internationale et son manque de crédibilité pour la recherche de la paix en Syrie.
À noter aussi dans l'actualité internationale que des centaines de chrétiens coptes ont enterré lundi les victimes d'attentats contre des églises en Égypte. Lundi, le jour d'entrée en vigueur de l'état d'urgence décrété après ces attaques qui ont fait, il faut le rappeler, 45 morts. Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué ces attentats menés dimanche en pleine célébration des rameaux à Alexandrie et à Tanta dans le nord du pays. Je vous rappelle également que les États-Unis ont largué jeudi contre le groupe État islamique, toujours lui en Afghanistan, cette fois la plus puissante bombe non nucléaire qu'ils aient jamais employée, surnommée la mère de toutes les bombes par le président américain, contre une série de grottes dans l'est du pays. La déflagration s'est entendue sur plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde.
Une semaine d'actualité.
Dorian Malovic, partons pour le Japon avant de nous retrouver. Le Japon qui a décidé de joindre sa flotte militaire à celle des États-Unis au large de la péninsule coréenne. Tokyo jeudi, Frédéric Charles.
Des bâtiments de la marine japonaise devraient rejoindre la flottille qui accompagne le porte-avions nucléaire américain Carl Vinson, dont deux destroyers lanceurs de missiles et un croiseur lanceur de missiles, et procéder à des exercices avec le groupe aéronaval du porte-avions, rapporte la presse japonaise. Basé à Okinawa, un avion renifleur américain doit voler au-dessus de la péninsule coréenne pour détecter des émanations de particules radioactives. La Corée du Nord pourrait célébrer la naissance de son fondateur par un sixième essai nucléaire. La présence de cette armada américaine au large de la Corée sert aussi à signaler à la Chine que les États-Unis vont augmenter leur capacité militaire dans la région. Le Japon dévoile opportunément aujourd'hui que ses avions chasseurs sont intervenus 1168 fois l'an dernier pour intercepter des appareils chinois volant souvent à proximité d'Okinawa où sont concentrées les bases américaines.
Suite d'une semaine d'actualité, le moins que l'on puisse dire, Dorian Malovic, c'est que vous étiez très intéressé par tout ce qu'on a entendu, toutes ces correspondances. Absolument. Et ces reportages, notamment celle de Frédéric Charles. Oui. Alors c'est donc dans ce contexte, bombardement par des missiles Tomahawk en Syrie, après une attaque chimique présumée, utilisation de la mer de toutes les bombes en Afghanistan il y a quelques heures, quelques jours en Afghanistan, c'est dans ce contexte-là que surgit cette crise de Corée.
Ben, écoutez, elle est. On ne sait pas ce qui la précède ou ce qui va suivre, parce que.
Alors ça, c'est à suivre. On en parle dans nos journaux, mais oui, c'est vrai que le contexte est lourd.
C'est vraiment.
Et l'incertitude est grande quant à la politique américaine.
C'est très incertain, et vous voyez, il y a des messages alarmistes du côté chinois, du côté russe, ce week-end, qui mettent en garde Donald Trump contre le moindre dérapage.
Il faut rappeler qu'hier, par exemple, la Corée du Nord promettait une réponse sans pitié, disait-elle, à toute provocation américaine.
Écoutez, dans l'art de la rhétorique, les Américains et les Nord-Coréens sont absolument passés maîtres. Donc, je veux dire, ils peuvent rivaliser les uns avec les autres. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, vous avez une concentration militaire dans la zone de la péninsule qui est énorme. Elle n'est pas avec le porte-avions en question. Il est dans le coin depuis longtemps. Enfin, vous avez la flotte du Pacifique. Il est là. Mmh. Vous avez des manœuvres conjointes américano-sud-coréennes chaque année en mars et en avril. C'est le rendez-vous annuel. Les Nord-Coréens le savent. Ils réagissent. Ils font des essais à cette période-là aussi, de missiles ou nucléaires. C'est leur façon à eux de rétorquer, de répondre. Là, ce qui me semble encore inquiétant, mais c'est pas étonnant non plus, c'est que le Japon s'affiche, si vous voulez. C'est pas la première fois que l'armée d'autodéfense, comme on appelle, parce que le Japon n'a pas le droit d'avoir une armée offensive depuis 1947. Les Américains ont fait voter cette constitution pacifiste. Et donc là, ils se joignent, mais on le dit, alors qu'ils se sont toujours joints à des exercices avec les Américains, avec les Sud-Coréens dans toute cette région, pour harmoniser un peu toutes les armées, que ce soit pour antimissiles si les missiles nord-coréens passaient, pour les sous-marins, pour des tas de choses. Donc ils sont là.
Autrement dit, tout est prêt.
Et je dirais que
Tout est prêt pour une offensive éventuelle.
Tout n'a jamais été aussi prêt. Ouais. Mais prêt dans le sens accent circonflexe et accent grave. C'est-à-dire, on est très proche d'une étincelle, d'un dérapage, d'une erreur, parce que ça, c'est quand même tout le monde...
Parce que ça suffirait de rien. Hein.
Tout le monde dit, bon ben non, on veut pas la guerre, on sait ce que ça provoquerait une guerre dans cette zone pour le monde entier, mais il suffit de pas grand-chose, et vous avez les acteurs et les armées qui sont en place. Et là, comme le rappelait Frédéric Ojardias, vous avez un anniversaire à Pyongyang aujourd'hui qui va nous présenter un défilé militaire absolument extravagant avec 200 journalistes étrangers invités par le régime. C'est invité, c'est on vous donne un visa, hein, c'est pas gratuit.
C'est une aubaine pour le régime.
Eh ben, le régime va faire sa propagande intérieure comme il le fait d'habitude sur l'anniversaire. Le message va être diffusé par les plus grands médias internationaux de toutes les nationalités. Si Pyongyang a un message à faire passer à Trump en réponse à ces menaces, j'irai tout seul, j'irai sans la Chine, ne vous inquiétez pas, je vais m'en charger, un peu comme à la Syrie, la Corée du Nord a là l'opportunité extraordinaire soit de montrer un nouveau missile intercontinental
dans un défilé,
dans le défilé, de faire un essai de missile au moment où il y a les 200 journalistes, ou de faire un essai nucléaire. Bon, ils ont leur programme, ils ont leur agenda. C'est pas la peine de dire qu'ils improvisent, ils savent ce qu'ils font.
Dorian Malovic, nous allons marquer une pause, écouter quelques nouvelles du monde de ces dernières heures. Il va être question de la Corée. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Merci pour l'ensemble de ces informations. Retour à 7 jours d'actualité avec les reportages de la rédaction et notre invité Dorian Malovic, auteur avec Juliette Morillo de La Corée du Nord en 100 questions, un livre publié chez Talendier.
Une semaine d'actualité.
Dorian, avant de repartir pour l'Asie, parlons de l'actualité française en quelques minutes. En politique, notez que dans les sondages, l'écart se resserre entre les quatre premiers candidats. On vous en parle là aussi dans nos journaux. Revenons-nous sur l'incendie mardi du camp de réfugiés de Grande-Synthe. C'est près de Dunkerque, dans le nord de la France. Un camp modèle, si on peut dire, construit avec l'aide de Médecins Sans Frontières. Un incendie d'origine criminelle, semble-t-il. Reportage de Mathieu Darrier, de France Bleu Nord.
Tout a commencé avec une rixe opposant des Kurdes à des Afghans en fin d'après-midi. Les forces de l'ordre sont intervenues, puis la bagarre a repris en milieu de soirée avec les premiers feux. Et plus les policiers et pompiers avançaient, plus des migrants incendiaient des chalets en bois, raconte le préfet du Nord, Michel Lalande.
L'idée, c'est de faire en sorte, en tout cas, que la population se calme, que les plus vulnérables soient à l'abri, que les quelques enfants qui vivaient sur ce camp, les femmes et les gens de bonne foi, si je puis dire, qui vivaient là, puissent en tout cas retrouver une vie un peu plus sereine que celle qu'ils ont vécue depuis ces dernières heures.
L'urgence cette nuit a donc été de trouver un toit pour les migrants qui le souhaitaient, explique Olivier Caramel de la ville de Grande-Synthe.
On héberge aujourd'hui toutes les personnes qui sont susceptibles de vouloir être logés. Donc, ce sont des gymnases, des salles municipales, de grosses salles, entre guillemets. Donc, on peut héberger quelques centaines de personnes pour l'instant. Et on aura réunion avec le préfet et le sous-préfet pour évaluer les dégâts.
Avec les trois quarts des chalets détruits, cet incendie signe très certainement la fin du camp de la Linière. La ville avait pourtant obtenu un sursis de 6 mois, le temps que l'État trouve des solutions pour chacun des réfugiés, notamment en centre d'accueil et d'orientation.
Sept jours dans le monde.
Et revenons maintenant en Asie, Dorian Malovic, dans la péninsule coréenne, vers laquelle tous les regards convergent ces derniers jours. En Corée du Sud, une certaine inquiétude, c'est le moins qu'on puisse dire, apparaît face aux gesticulations du voisin du Nord et les menaces des États-Unis. Retrouvons Frédéric Ojardias, cette fois mardi.
La Corée du Nord se livre à ses rodomontades habituelles, elle se dit prête à la guerre et elle qualifie de provocation insensée l'envoi de ce porte-avions américain au large de ses côtes. Chez le voisin sud-coréen, même s'il n'y a aucune panique, une certaine inquiétude monte, notamment sur les réseaux sociaux où bruissent des rumeurs de guerre. Beaucoup redoutent une frappe préventive américaine sur le Nord, alors que l'administration de Donald Trump a présenté sa récente attaque en Syrie comme un avertissement adressé aussi à Pyongyang. Face aux rumeurs, Séoul lance un appel au calme. Ce matin, le gouvernement assure que Washington ne mènera aucune action militaire unilatérale sans la coopération étroite de son allié militaire sud-coréen. C'est dans ce contexte tendu que l'émissaire chinois pour la péninsule coréenne s'est rendu hier à Séoul. L'occasion pour lui de rappeler la position de Pékin en faveur d'une négociation avec la Corée du Nord. Un dialogue que pour le moment, les États-Unis refusent catégoriquement.
Alors nous allons parler de la Corée du Sud, cette fois Dorian Malovic. Oui. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Chine et de l'Asie, chef du service Asie du quotidien La Croix, vénérable quotidien La Croix. Et vous avez écrit donc avec Juliette Morillo ce livre que je recommande, La Corée du Nord surtout en ce moment, en sans question chez Talendier. Et vous avez écrit avec Juliette Morillo un autre livre en 2004 qui s'intitule Évadé de Corée du Nord.
Oui, c'était une enquête sur le terrain, sur la frontière chinoise et nord-coréenne, là où peu de gens allaient, parce que c'est très très loin, et on a fait toute la frontière, on a rencontré des Nord-Coréens qui fuyaient la famine à l'époque, dans les années 90, ou qui a fait 1 million de morts. Et on voulait écouter les Nord-Coréens avant d'avoir été, si vous voulez, lavé le cerveau, avant d'avoir le cerveau lavé par les autorités sud-coréennes une fois arrivés au sud, et de nous raconter leur vie en Corée du Nord. C'est-à-dire que ce qu'on a tendance à oublier parfois, c'est que bon, il y a un régime nord-coréen et vous avez 22 millions d'êtres humains nord-coréens qui vivent là, et la question qu'on se posait tout le temps, si nous étions nés dans ce pays, nous ne serions peut-être pas si différents.
On parle souvent, en parlant de la Corée du Nord, de goulag, de pays totalitaires, ce qui est évidemment le cas.
C'est le cas, bien sûr.
Mais on se demande comment arrivent à vivre 22 millions de personnes dans ce contexte. Et vous parliez tout à l'heure, avec parfois des périodes de l'histoire du pays tragiques, vous parliez il y a un instant de famine.
La famine dans 90, remettons-nous à la chute de l'URSS. C'était un satellite de l'URSS, sous perfusion, je dirais, de l'URSS à l'époque, effondrement 91, l'agriculture s'effondre. Plus de fuel, plus de pièces détachées, les tracteurs, la mécanisation, tout ça ne fonctionne plus. Des problèmes climatiques qui sont venus s'ajouter, et vous avez eu un pays qui a été victime de la famine. Ce que les Nord-Coréens vont pas dire, évidemment, les Nord-Coréens vont dire que c'était le climat. Mais donc, ils ont dû se relever, finalement, d'un soutien soviétique à plus rien, pour se retourner petit à petit vers un ancien allié historique qui était les Chinois, pour les aider, et se reconstruire. Et Kim Jong-il, le père de l'actuel leader, lui a dû, finalement, énormément centrer son régime sur l'armée pour maintenir la structure, pour que ça ne s'effondre pas. Les choses étant améliorées, c'est-à-dire que vous avez toujours des poches de malnutrition dans les campagnes, dans des régions éloignées de Corée du Nord, Pyongyang, quelques grandes villes frontalières, le commerce, vous avez du commerce informel, vous avez aujourd'hui des monnaies étrangères qui circulent, une nouvelle classe d'hommes d'affaires qui aujourd'hui fonctionne avec évidemment la Chine en premier, mais vous avez des produits qui arrivent par la Chine, hein, qui sont sud-coréens, japonais, même américains. Et le régime Kim Jong-un, ça fait 5 ans qu'il est au pouvoir, et il a quand même promis dans son premier discours, il a dit plus jamais le peuple nord-coréen devra souffrir de la faim. Et il s'est efforcé de lancer de timides réformes économiques exactement à l'image de la Chine au début des années 80. Lorsque moi j'étais en Chine à l'époque, et je voyais le début, et c'est ce qu'on perçoit en Corée du Nord en ce moment. Vous êtes dans un système étatique très contrôlé, c'est toujours très officiel, mais à l'intérieur de ce système, vous avez des systèmes qui vous permettent, alors vous payez une patente, vous payez un impôt à l'administration officielle, et vous avez le droit de faire un petit commerce, chauffeur de taxi, bus, etc. Donc ça commence à circuler un peu. Évidemment, c'est à l'échelle de la Corée du Nord, c'est pas énorme, mais il va falloir que des investissements étrangers viennent, et ça va être le plus compliqué pour maintenir ces réformes.
Alors Dorian Malovic, parlons de la politique de la Corée du Sud par rapport à son voisin du Nord. Il faut rappeler que c'est le même pays, divisé depuis la guerre de Corée. Avec cette zone étrange, la DMZ, la frontière qui est assez étonnante.
Alors, on appelle la zone démilitarisée, on est d'accord, et je pense que c'est la zone la plus militarisée au monde, déjà.
Il paraît que c'est devenu, depuis le temps, une réserve naturelle de très haute qualité.
Parce que 38e parallèle, vous avez le 38e, et en fait, l'idée, c'est vous avez 2 km au nord et 2 km au sud.
Donc, une bande de 4 km,
Donc, vous avez là une réserve absolument extraordinaire, avec des animaux qui sont là, etc. Donc ce qui est aussi, quand on y va, c'est très surréaliste d'imaginer que vous avez ces troupes américaines, sud-coréennes, nord-coréennes de part et d'autre, et puis au milieu, cette liberté naturelle de la nature, avec des animaux qui sont préservés, que des fois on trouve plus ailleurs. Et là, effectivement, pour les Coréens, l'idée d'une réunification, elle est toujours là dans leur cœur. L'idée, c'est qu'on est un même peuple. Simplement, l'histoire ne fonctionne pas avec le cœur, et que la réalité aujourd'hui fait que le rêve des Sud-Coréens de réunifier est toujours là, chez les Nord-Coréens aussi, mais c'est devenu quand même aujourd'hui un mythe, sinon quasiment une utopie au jour où on est.
Et quelle est la tendance, justement, Dorian Malovic, du gouvernement chinois? On sait qu'il y a une crise politique, des élections présidentielles annoncées après la chute de la
régime sud-coréen. Oui. Là, on est dans une phase où vous avez eu la présidente Park Geun-hye destituée, arrêtée, va être jugée, probablement condamnée. C'est un régime conservateur qui disparaît, et une nouvelle présidentielle est prévue le 9 mai. Et vous avez un candidat libéral plutôt à gauche qui va probablement être élu et beaucoup plus favorable à relancer un dialogue et des échanges avec le voisin nord-coréen, ce qui n'a pas été le cas pendant près de 10 ans avec les deux prédécesseurs. Donc ça vient aussi, je dirais, ajouter à la volatilité, parce que ça va pas dans les plans.
Oui, il va prendre, que s'il applique sa politique, il va prendre la politique des Américains à contre-pied.
Exactement. Ouais. Donc pour les Américains, un président qui va vouloir dialoguer, ouvrir à nouveau la zone économique de Kaesong, dialoguer, discuter, c'est pas l'idée américaine.
nous écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
C'était notre adresse électronique, vous la connaissez par cœur maintenant. Écrivez-nous, merci pour vos messages chaque semaine. Un salut aujourd'hui à Diémé, à Labé en Guinée. Bonjour à Taïrou, à Mopti, au Mali. Je salue Tierno Ibrahima Diallo. Donald Trump doit éviter d'être le nouveau George Bush des États-Unis, écrit-il. Bonjour à Auster, à Abomey Kalavi au Bénin. Et à Liane Guillaume qui nous écoute à Moscou et qui vient d'écrire « 1001 jours en Tartarie », un récit sur la vie des femmes, notamment en Ouzbékistan.
Une semaine d'actualité.
Partons pour l'Afrique maintenant, Dorian Malovic, et nous reviendrons évidemment en Asie. Et nous allons nous arrêter un instant sur la fronde sociale dans quelques pays du continent, au Mali par exemple, avec ici une grève dans le secteur de la santé et de l'éducation. Reportage à Bamako d'Anthony Fouchard.
Sur le parvis de la Bourse du Travail, une petite poignée de militants scande à intervalles réguliers ces slogans. Ils sont là depuis des semaines. Le collectif Trop c'est trop veut pousser le gouvernement à trouver une solution aux différentes grèves. Amara Sidibé est un des porte-parole.
C'est pourquoi nous nous sommes sortis. Nous ne soutenons pas les grévistes. Nous ne sommes pas contre le gouvernement. Mais nous revendiquons un droit qui dit que l'éducation est un droit fondamental et la santé est un droit. Et qui peut nous octroyer ces droits aujourd'hui? C'est le gouvernement et c'est au gouvernement de trouver une solution.
Du côté des grévistes, on ne décolère pas et la nomination du nouveau Premier ministre est accueillie avec circonspection. Issoufi Maïga est le secrétaire général adjoint du Syndicat national de la santé.
Nous pensons que quand un gouvernement signe des engagements, il doit quand même satisfaire à ses engagements. Il a toute la responsabilité. Et c'est ça le problème aujourd'hui, quand on voit que tous les syndicats sont en grève, c'est que le gouvernement signe des PV de conciliation, mais au moment de la mise en œuvre, il se rétracte. Et c'est ça le ras-le-bol, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tout le monde s'est levé. Maintenant qu'il y a un nouveau Premier ministre, ça ne nous amène pas à signer une trêve. Nous ne signerons jamais une trêve. On va se remettre autour de la table comme on ne l'a jamais quitté et trouver un consensus pour que les populations puissent avoir ce qu'ils veulent.
Le nouveau Premier ministre a quant à lui visité deux hôpitaux de Bamako hier en promettant que son futur gouvernement se saisirait du problème dès sa formation.
Au Niger, cette fois, la fronde touche le campus universitaire de Niamey, la capitale. Campus qui a été fermé lundi après des échauffourées entre étudiants et forces de l'ordre. Résultat, 23 000 étudiants sont à la rue, carrément. Reportage mercredi de Moussa Kaka.
Toute la journée, les étudiants retardataires ont été exceptionnellement autorisés à récupérer leurs valises dans les dortoirs, sous l'œil vigilant des policiers. Pour ceux qui n'ont nulle part où aller, la fermeture du campus commence à peser sur eux. Ici, un groupe d'étudiants assis à même le sol sous des manguiers. Ousmane Issa.
La situation, nous la vivons dans notre chair. Toutes les prestations des œuvres universitaires, même pas le resto, toutes les prestations des œuvres universitaires ont été suspendues.
À la faculté des sciences politiques et juridiques, le grand amphithéâtre est désert. Non loin de là, sur un banc, Adam Maman Sabiou cogite, l'heure n'est plus au cours.
Comment est-il possible? Nos camarades sont enfermés au niveau de la police judiciaire, au niveau des prisons. D'autres sont blessés, d'autres sont décédés. Comment on peut venir prendre le cours?
En face des deux grands restaurants universitaires fortement gardés par la police, un groupe d'étudiants sourire aux lèvres, un ami de la ville vient de les visiter.
On vient de finir un plat qu'un ami nous a amené ici pour manger. Nous, depuis le matin, les gens n'ont rien mangé.
En attendant la réouverture du campus universitaire, Issa Mohamed, deuxième année de géographie, organise sa vie dans une mosquée.
Nous sommes à la mosquée Al-Mustapha, la grande mosquée du campus universitaire. Oui, je suis dans la mosquée, je loge dans la mosquée.
Vous trouvez du réconfort ici dans la mosquée?
En lisant le Coran, nous trouvons du réconfort certainement.
72 heures après la fermeture du campus universitaire, aucune négociation n'est engagée entre les deux parties.
Dorian Malovic, puisque nous sommes au Niger, attendons-nous un instant sur la conclusion d'un rapport de trois ONG, c'est-à-dire One, Oxfam et Sherpa, sur l'impact d'Areva sur la vie économique du pays. Areva, le producteur français d'uranium, bien connu. Un impact relatif, si l'on en croit Laetitia Libert, co-auteur de cette étude. Écoutez-la, elle a été interrogée par Claire Fage.
On a choisi d'étudier plus particulièrement Areva au Niger parce que Oxfam et une ONG locale nigérienne avaient fait une campagne en 2013 pour une renégociation des contrats miniers. L'objectif était de voir dans quelle mesure cette renégociation avait bénéficié ou pas aux populations. Et il s'avère que non. On constate que l'État a reçu moins d'argent, malgré la renégociation des contrats, qu'avant cette renégociation. Au Niger, la baisse des prix d'enlèvement de l'uranium a fait doublement baisser la redevance. Et par ailleurs, une baisse des prix d'enlèvement fait aussi baisser la rentabilité de la mine et donc le taux applicable, donc le pourcentage retenu sur le revenu. Et donc, à la fin, on a effectivement une diminution des paiements à l'État. Il n'y a peut-être pas de pratique illégale, hein, mais cette loi qui permet une transparence et une accessibilité des montants des paiements au gouvernement nous montre que le Niger, bien qu'il produise 27% de l'uranium acheté par Areva, ne reçoit que 7% des paiements que Areva fait au gouvernement.
Une semaine d'actualité.
Allez, Dorian Malovic, retour en Asie maintenant. Revenons en effet sur le voyage du président chinois aux États-Unis à la fin de la semaine dernière. Écoutez ce que disait dimanche notre correspondant à Washington, Jean-Louis Porté.
Au moins en public, Donald Trump et Xi Jinping ont donné l'impression d'être les meilleurs amis du monde. Loin est le temps où le candidat républicain accusait la Chine de voler les États-Unis à cause de l'important déséquilibre de la balance commerciale. Ce problème a été abordé hier, mais pour la première fois, selon le ministre américain du Commerce, Wilbur Moss, les Chinois se sont montrés intéressés à réduire l'écart pour contrôler l'inflation. Rex Tillerson a pour sa part noté que sur le nucléaire nord-coréen, les deux dirigeants sont d'accord sur les avancées de Pyongyang qui ont atteint, dit-il, un stade sérieux. Même si le secrétaire d'État a qualifié les discussions de franches et honnêtes, ce qui en langage diplomatique veut dire qu'elles ont parfois été tendues, à l'heure du déjeuner final, Donald Trump exhumait l'optimisme.
Je pense que nous avons fait des progrès spectaculaires dans notre relation avec la Chine. Les rapports établis entre le président Xi et moi sont exceptionnels et je crois que nombre de problèmes potentiels importants peuvent être écartés.
Cette visite avait surtout pour objet, pour les deux présidents, de mieux se connaître et aucune percée n'en était attendue. De ce point de vue donc, elle est un succès.
Suite d'une semaine d'actualité, là aussi vous étiez très attentif avec tous ces reportages sur l'Afrique et sur cette visite qui remonte maintenant à une semaine du président chinois aux États-Unis. Là, c'est vrai que c'est la confusion, on sait plus trop ce que...
On a l'impression que Trump a découvert les dossiers chinois réels. Il a probablement été séduit par un homme, Xi Jinping, à qui on l'a fait pas. Enfin, je veux dire, dans le genre politique, avec 40 ans de carrière... C'est du solide, les Chinois gardent leur sang-froid dans toute cette histoire, dans tout le dossier. Et je pense qu'il a peut-être compris en 10 minutes que le dossier nord-coréen n'était pas aussi simple que ça. Alors quand les uns et les autres, Chinois et Américains, disent « Nous sommes tombés d'accord pour dire que la situation nucléaire en Corée du Nord a atteint un niveau insurmontable », tous les deux sont d'accord sur le constat. La seule chose, c'est que la Chine ne voit pas le règlement de cette situation de la même façon. Trump dit « c'est aux Chinois de régler le problème, c'est leur problème la Corée du Nord, c'est pas à nous de le régler ». Les Chinois disent « nous, on a un impact relatif, on ne peut pas faire ce que l'on veut avec la Corée du Nord ». Ce qui est vrai, la Corée du Nord ne se laisse pas dicter sa politique par les Chinois, contrairement à ce que les Américains ont voulu laisser croire.
Ça, c'est important, parce qu'à chaque fois qu'on parle de la Corée du Nord, on dit « qu'en pense la Chine ?»
Exactement, mais c'est pas inintéressant. C'est vrai qu'elle a un rôle, elle a un poids, évidemment, mais je dirais, les Américains, en fait, se défaussent en disant « c'est le problème numéro un des Chinois, eux seuls peuvent ». Mais ça veut dire que on se disculpe, on s'écarte de la moindre idée de résoudre un problème. Trump dit « on va avoir une nouvelle approche ». Je ne vois pas ce qu'est la nouvelle approche. Si ce n'est que, on parle de sanctions, on parle de frappes préventives, on parle évidemment de tout est sur la table, mais jusqu'à présent, il a peut-être découvert que c'était pas aussi simple que la Syrie ou l'Afghanistan. Il peut pas jeter des bombes sur la Corée du Nord aussi facilement que ça. Si j'ai une suggestion à faire, en toute modestie, ce qui serait vraiment une nouvelle approche. On compare parfois Trump à l'idée de Nixon à l'époque où Trump faisait Nixon faisait un peu le trublion, un petit peu bêta, et finalement il avait des idées.
Nixon qui avait d'ailleurs ouvert des relations entre les États-Unis.
Eh bien exactement, c'est-à-dire que si Trump voulait faire vraiment quelque chose d'incroyable et qui à mon avis il serait récompensé du Nobel de la paix s'il y arrivait, il monte à bord de Air Force One son avion. Il atterrit à Pyongyang, où il sera très bien reçu, et il commence à négocier en tête-à-tête avec Kim Jong-un. Ça, je peux vous dire que là, ce serait une nouvelle approche, et qu'on avancerait les pions de façon pacifique dans la région.
Vous pensez que c'est possible, ce genre de scénario ?
Écoutez,
Ce serait un vrai coup d'éclat, effectivement.
Ce serait un coup d'éclat, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir, à l'émis du culot. Nixon, en 72, ouais. Il y va en pleine révolution culturelle chinoise, hein, avec Mao, Zhou Enlai. C'était probablement le pire moment de l'ère Mao pour aller là-bas. Alors ça s'est préparé, vous aviez Kissinger. Bon là, évidemment, on n'a pas Kissinger. Évidemment, Tillerson, c'est pas Kissinger. Mais c'est des tas de conseillers américains très brillants, connaissant parfaitement le dossier nord-coréen, envoient des notes à la Maison Blanche pour dire voilà les évolutions possibles, voilà comment entrer dans un schéma de négociation. Mais ça serait reconnaître pour les Américains que la Corée du Nord est une puissance nucléaire, ça c'est déjà difficile à admettre, et ils demandent toujours en préalable, vous arrêtez votre programme nucléaire et balistique, et nous allons commencer à discuter, ce qui est un préalable totalement inefficace. Enfin, je veux dire, la Corée du Nord ne va pas dire, bon, j'arrête et on discute. Alors, on peut discuter et on peut stopper les développements pendant un temps et trouver des solutions.
Alors, en attendant, le climat, c'est par exemple la déclaration d'hier venant de Pékin. Quiconque déclenchera une guerre en paiera le prix, dit ouais. Pékin, ou un conflit pourrait éclater à tout moment.
Mise en garde d'un pays comme la Chine qui a rencontré maintenant Donald Trump, a vu qu'entre la poire et le dessert au chocolat a balancé des tomahawks en Syrie, qui a lâché une bombe énorme sur l'Afghanistan. Ils appellent vraiment à la modération. Ils sont très conscients, quoi, de ce qui pourrait arriver. Ils essaient de garder leur sang-froid. Les Chinois vraiment sont, enfin, franchement, admirablement, en maîtrise. Parce qu'ils ont en face d'eux quelqu'un d'assez improbable. Donc, c'est pas si simple. Alors que tous les éléments ce week-end sont là pour une étincelle, un dérapage.
Alors, pour être clair, là, on est à rebours du scénario idéal que vous préconisiez, oui, de cette visite américaine d'un président à Pyongyang, oui. Mais si, au contraire, un conflit commençait, oui. Il faut souligner la gravité de ce conflit.
Très grave. Vraiment très grave. Et là, vraiment, je n'invente rien. Je veux dire, c'est les grands spécialistes militaires, stratégiques qui le disent. Mais c'est le domino. Si vous connaissez bien le contexte, vous voyez que frappe américaine sur la Corée du Nord, sur des sites nucléaires, sur certains endroits, sur Kim Jong-un, peu importe. Il me semblerait absolument incroyable que Kim Jong-un ne rétorque pas d'une façon ou d'une autre. L'agression a été faite de la part des Américains. La légitime défense vaudrait aux yeux des Nord-Coréens, qui, eux, pourraient envoyer de l'artillerie conventionnelle à 50 km de leur frontière. Il y a Séoul, 26 millions d'habitants, ouais. 150 000 citoyens américains sont dans la région de Séoul, dont 30 000 soldats. Vous avez aussi des bases américaines très proches, et vous avez Okinawa, le Japon, que la Corée du Nord peut atteindre. La réaction chinoise, qui a des accords de défense depuis 61 avec la Corée du Nord, pourrait aussi entrer en action. On est dans un engrenage et dans un cycle qui pourrait être très très peu maîtrisable, enfin incontrôlable. Et on a évalué, enfin beaucoup ont évalué les pertes humaines seraient catastrophiques, parce que même si on continue à pilonner le Nord et qu'effectivement on fait des ravages, ils peuvent encore envoyer beaucoup de bombes sur le Sud, sur des bateaux américains. Je pense que on sous-estime finalement l'appareil militaire nord-coréen.
Il faut rappeler, Dorian, la déclaration d'hier de la Corée du Nord, hein, qui promet une réponse sans oui. pitié à toute oui. provocation américaine, dit-elle.
C'est clair, à toute provocation, c'est-à-dire si on est provoqué, la Corée du Nord, de mon point de vue, ne sera pas la première à frapper comme ça, dans le vide. Si elle réagit, effectivement, ce sera pour elle de l'autodéfense et ça peut être très sanglant.
Alors pour terminer sur une note plus légère, oui. hein, ce samedi matin oui, de week-end pascal,
dans il faut y croire,
il faut quand même noter que si les deux pays étaient réunifiés, oui. ils constitueraient oui. une vraie puissance. Déjà la Corée du Sud en est une.
En est une, le différentiel est énorme, mais si on est dans un processus de réunification, oui. donc ça veut dire qu'il faut se réintégrer, se réassimiler, c'est-à-dire les deux
un peu comme on fait les Allemands.
Les Allemands. Alors à la puissance 50, oui, hein, parce sûr, que oui. le différentiel est énorme. Pour autant, les techniciens nord-coréens sont très bien formés. Les Nord-Coréens savent faire du commerce. Ils savent tellement bien faire de commerce qu'ils arrivent même à duper les hommes d'affaires chinois. Donc faut quand même le faire. Ce qui montre que la Chine n'a pas tant de levier sur la Corée du Nord. Et ça, ce serait une puissance régionale qui serait très concurrentielle avec le Japon. Le Japon redoute. Vous auriez une population finalement très jeune aussi, hein, en Corée. Vous avez un vieillissement au Japon. Et vous auriez une puissance qui serait très très menaçante économiquement. Le Japon redouterait cela. En même temps, il faut voir sous quel régime serait la péninsule, parce que les Chinois, il faudrait que les Américains quittent le territoire pour être totalement assurés.
Bon, en attendant, on va guetter ce qui se passe ces prochaines heures, ces prochains jours. Oui. Merci Dorian Malovic. Votre livre s'intitule « La Corée du Nord en 100 questions ». Il est écrit avec Juliette Morillot. Il est absolument passionnant et on comprend plein de choses en le lisant. Et c'est la réponse à 100 questions sur ce pays et sur ce continent aussi. Et il est publié chez Taillandier. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Nous parlerons de la fabrique des chefs. Figurez-vous, pour reprendre le titre du livre de notre invité, Christian-Georges Schwenzel, comment sont nés les chefs dans l'histoire? Comment furent inventés les rois, les pharaons, les tyrans, les empereurs et autres souverains antiques? On est un petit peu dans la même tonalité, vous l'avez constaté. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end de Pâques à tous. Bonne semaine. Dans un instant, nouveau journal sur RFI.